Bienvenue à tous, vous écoutez Mustéar Studio sur Couleur FM 97.1. Pourquoi ce titre, Mustéar Studio, nom unique et évocateur, possède une signification? Muse,
musique,
théâtre,
art plastique, art chorégraphique,
cinéma,
duo,
radio.
Nous, chroniqueurs de talent, réunirons donc ces domaines artistiques qui nous tiennent à cœur dans une émission fantaisiste basée sur des faits réels.
Salut, salut, vous êtes donc sur Mustéar Studio. C'est une émission composée de plein de petites rubriques faites par plein de petits chroniqueurs et de petites chroniqueuses. Nous sommes donc Jou,
Cécile,
Mathieu,
Mathias,
Chloé
et Damian.
Vous pouvez nous retrouver à cette émission une fois par mois, donc, sur les ondes, ou plus si vous décidez de venir agrandir l'équipe, car nous n'avons pas vocation à rester dans notre petit groupe. Vous pouvez venir des Clauses Badinières, de Bourgoin ou de partout aux alentours.
Voilà, et pour nous rejoindre, donc, c'est très simple. Il suffit de contacter notre standardiste secrétaire Manitou avec le mail a2s tout attaché point de quoi je me mêle sans apostrophe et tout attaché @orange.fr ou alors par téléphone au 09 77 72 09 25. 09 77 72 09 25.
Il faut agrandir le groupe, comme ça nous pourrons avoir plus d'idées, plus de chroniques, plus de tout.
Donc si vous voulez bidouiller du son, écrire des histoires, les raconter, les jouer, un petit peu tout ce qu'on fait à la radio, rejoignez-nous.
Dans cette émission, il va donc y avoir comme rubrique
Tidico,
L'Uchronique,
Brainbox,
Envoyé spatial,
Inkipsis,
Daragoy,
Sekankiako,
le tout dans un ordre différent.
Lol. Et maintenant, la présentation de la première rubrique par Mamijou.
Oh bah merci, mon petit gars, je te donnerai des madeleines. Qu'est-ce que tu cotes le Tidico? C'est la rubrique pour vous faire découvrir des mots anciens, des mots nouveaux, des mots inconnus ou mal connus, leurs mots ou improbables, piochés dans notre Tidico. Bah, Tidico, quoi!
Tidico, 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 Tidico. Tidico, 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 Tidico,
Tidico, Tidico. Ce mois-ci, Tidico cherche la bonne résolution.
Mes chers noms communs, mes chers noms propres, mes chers adjectifs, mes chers pronoms, enfin mes chers tous, je tiens maintenant à mettre au vote la résolution déterminant les contours du mot résolution.
Avant de me prononcer, j'aimerais que nous tranchions le délicat problème de la durée de la validité de la résolution prise.
Oui, moi aussi je voudrais savoir. La résolution est-elle inébranlable ou peut-on la remettre en question à tout moment?
Je ne me prononcerai que lorsque j'aurai la résolution à ce problème.
Non, la seule chose que nous avons admis pour l'instant, c'est qu'il venait du latin « resolution » qui signifie « action de relâcher ».
Action de relâcher, mais de manière définitive ou non?
On peut difficilement l'envisager de façon définitive. Prenez par exemple la résolution du muscle. Elle n'est jamais définitive. Elle n'est qu'une étape d'un mouvement qui peut se répéter.
Oui, mais lorsqu'en mathématiques, je détermine les racines de l'équation, cette résolution est définitive?
Vu ton niveau en maths, si c'est toi qui trouves la résolution, mieux vaut qu'elle ne soit pas définitive. Je ne tiens pas à vivre avec une erreur.
Je ne suis peut-être pas excellente en maths, mais moi, au moins, je ne chante pas faux. Et en musique, je sais mener à bien la résolution d'une dissonance à une consonance.
Bah, vous pouvez changer de musique, là, et arrêter de vous manger le nez. Nous risquons de ne pas arriver à tenir nos résolutions.
Personnellement, la définition est un peu grossière encore. Je ne vois que des points de ci, de là.
Ça manque de pixels, tout ça.
Qu'est-ce que Picsou vient faire là-dedans ?
Il ne parle pas de Picsou, du moins elle ne parle pas de Picsou, mais de pixels. Oui, c'est une référence informatique. Car la résolution en informatique se définit par un nombre de pixels sur la longueur et par un nombre de pixels sur la largeur qui construisent ainsi l'image. Les pixels étant des points de couleur ou en noir et blanc.
Voilà, il n'y a pas photo.
Il n'y a pas photo. Mais en photo, il y a la résolution, qui est déterminée par la propriété d'un instrument qui permet la vision ou la reproduction distincte de deux points rapprochés.
Tu en connais des choses. Moi, je vote Tidico. 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 Tidico.
Et voici une nouvelle rubrique dans l'émission Mystère Sidio, une rubrique dédiée aux musiques actuelles. On vous fera un panel assez large de toutes les musiques actuelles possibles et inimaginables, et nous commencerons par le métal. Mais d'abord, qu'est-ce que les musiques actuelles ?
Les musiques actuelles. Le terme « musique actuelle » créé par le ministère de la Culture français regroupe la chanson, le jazz, les musiques amplifiées et la musique traditionnelle. Sous la terminologie « musique amplifiée » se cachent beaucoup d'autres types de sons ayant pour point commun qu'ils utilisent des amplis. La musique actuelle, c'est en fait tous les genres de musique, excepté l'ancienne musique occidentale savante ou musique classique sous son nom le plus populaire. Et j'insiste sur le mot « occidentale ». Je dis ancienne car la musique savante existe encore aujourd'hui et fait partie des musiques actuelles par l'utilisation de synthétiseurs ou d'ordinateurs. En fait, l'appellation musique actuelle est très bancale et approximative car elle regroupe des musiques actuelles aussi bien que historiques et culturelles. Par exemple, un joueur de cornemuse fait de la musique actuelle alors que l'on retrouve des traces de cet instrument dans des ruines égyptiennes datant de 300 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, une musique amplifiée, le métal. Heavy trad, hard rock, grindcore, death, black, mélodique, doom, thrash. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux genres que recèle la musique métal. Et bien que nous n'allons pas ici en faire l'énumération, nous allons tout de même en voir un sacré paquet. Mais commençons par le commencement. Né au début des années 70, le métal se caractérise par une guitare saturée, une batterie rapide, des riffs épiques, une basse puissante, un chanteur possédé et un rythme effréné. Bien évidemment, ceci n'est qu'une généralité et le genre ou groupe n'obéissent pas tous à ces règles, mais ces points communs en sont tout de même représentatifs. En tout cas, c'est sous cette forme qu'est né le genre. La paternité, justement. Parlons-en. Le métal vient bien évidemment du rock des années 50 à 70. Certains le font remonter jusqu'au jazz des Afro-Américains, ce qui est assez juste, dans la mesure où ce sont toutes deux des musiques contestataires. Mais une autre origine, moins connue, est la musique classique, ou musique occidentale savante pour les puristes. En effet, lorsque l'on étudie attentivement les partitions du traditional British heavy metal, on se rend compte que la construction assez complexe de certains morceaux, la virtuosité de certains musiciens, ont des ressemblances avec cette musique noble. Mais alors, qui furent les premiers à jouer du métal ? On trouve le métal chez Jim Hendrix, l'inventeur de la guitare saturée, ou encore dans le Maximum Rhythm Blues des Who. On fait généralement part du premier morceau de métal aux Beatles avec Helter Skelter. Sorti en 1968 sur la face B du White Album. On y retrouve toutes les caractéristiques évoquées plus tôt, et Ringo Starr, le batteur, nous gratifie d'un « I have blister on my finger » à la fin du morceau. Traduisez « J'ai des ampoules aux doigts ». Cela donne le ton de la rapidité de la violence du morceau pour un groupe de l'époque. Mais si les Beatles ont fait le premier morceau, qui fut le premier groupe de métal à proprement parler ? Un groupe de polka blues du Yorkshire du nom de Hearse, rebaptisé pour l'occasion en Black Sabbath. Et je commence déjà à me contredire. En effet, Black Sabbath a créé le métal comme on l'entend aujourd'hui, en faisant une musique sombre et lente. Alors, quel fut l'ingrédient qui fit que l'on appela ça du métal, me demanderez-vous ? Je vous répondrai, le triton maléfique. Le triton maléfique est un ensemble de notes qui donne une atmosphère sombre à la partition. Il est généralement appelé quinte augmentée ou quinte diminuée, suivant le sens dans lequel on le prend. Il s'agit en fait d'un intervalle non juste dans une gamme. Mais ce sont là des notions de solfège et je ne vais donc pas entrer dans les détails. Sachez juste que son petit nom vient du fait qu'il n'est pas rigoureusement juste mélodiquement et donc a été interdit par l'Église au Moyen-Âge. Black Sabbath, donc, utilisant ce schéma, donna une atmosphère glauque à son morceau et en ajoutant à l'album Black Sabbath des morceaux comme The Wizard... Behind the Wall. Ces musiciens s'installèrent comme les pères fondateurs du heavy metal. Ah oui, petite chose à préciser. Le metal, en français, équivaut à heavy metal, en anglais. Ce qu'en français on désigne sous le nom de heavy metal est en fait le traditional heavy metal, né durant la new wave of British heavy metal. Mais nous y reviendrons. Juste, j'utiliserai durant ces chroniques les termes anglais, car fan du heavy trad anglais.
Merci Mathieu pour ce premier épisode d'une longue série sur les musiques actuelles et, en premier lieu, le métal. Et maintenant, place à l'Inkipsis sur les jours fériés.
Et vous êtes toujours sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Mustéar Sidio. Allez, on enchaîne.
Pour tous les terriens se référant au calendrier grégorien, 2016 était annoncé et 2016 est là. Mais sera-t-il tel qu'il fut promis ? Rien n'est moins sûr, surtout pour les Français. Oui, madame, car si vous observez plus attentivement, un scandale, source de rébellion, est là sous nos yeux. Travailleurs, travailleuses, vous aurez 4 jours fériés en moins, et, un malheur n'arrivant jamais seul, vous devrez travailler 1 jour de plus. Si, si. Nous sommes dans une année bissextile, et le 29 février tombe un lundi.
Ouais, bah, ça casse pas 3 pattes à un escargot. Ça arrive régulièrement et y a jamais eu de révolution.
Chez les Français, peut-être, mais chez les jours du calendrier, ça ferraille dur. Suivez-moi, vous comprendrez.
Venez, bien,
S'il vous plaît.
Stop ! Eh bien. Que t'arrive-t-il le 13 novembre ? Il n'y a plus de gentillesse !
Si, si, mais vous ne vous écoutez pas et du coup, vous ne m'écoutez pas, vous n'arrêtez pas de vous battre. À ce rythme-là, on va y passer l'année.
Je vois, tu crois que c'est dur d'être le symbole de paix, de gentillesse ? Et en plus, ça va être encore plus dur d'être le symbole d'un sentiment neuneux ! La gentillesse !
Tu te calmes là, lui-même, c'est pas facile pour lui. Déjà qu'en 2015, des abrutis lui ont collé une sale image à ce pauvre 13 novembre. Et je comprends ce qu'il ressent. Moi, ça fait des années que les forces néandertaliennes me salopent ma belle image de fête laïque des travailleurs. En faisant des messes en l'honneur d'une soi-disant pucelle qui aurait répondu au téléphone avant qu'il existe, tout que tout le monde a suivi au charbon parce qu'il l'a cru et qu'elle a fini cuite par un cochon.
Ouais, ben ça n'empêche que dire à quelqu'un qu'il est gentil, ce n'est pas forcément flatteur. Ha! Ha! Ha!
Couché.
Ah! Non, j'ai eu un fou rire. Oh.
Mais ça m'est égal d'être neuneu. Moi, ce que je veux, là, maintenant, c'est comprendre pourquoi vous criez.
Pourquoi je crie? Mais parce que cette année, je tombe un dimanche. Et les travailleurs ne vont même pas pouvoir me dire merci. Merci de leur procurer un jour de repos supplémentaire.
Et il n'est pas le seul, moi aussi. Les anciens combattants de 39-45, qui sont maintenant tous à la retraite, n'auront pas leur jour rien que pour eux. Partager mon jour de paix avec ceux qui ont fait l'Inquisition, c'est de la torture.
Vous mélangez tout, mon pauvre. Sachez que moi aussi, ça ne m'enchante pas de tomber un dimanche.
Oui, mais toi, le 25 décembre, les dimanches sont tes commerciaux tout au long de l'année. Tu peux bien partager avec les salariés, non?
Mais c'est une plage de pub en moins. Je veux dire, et ces pauvres salariés qui n'auront pas de jour de repos en pleine semaine?
Non, arrête ton char, on n'y croit pas deux secondes. Comme tu l'as dit, c'est à la disparition de ta plage de pub supplémentaire qui te chagrine.
Je ne vous permets pas. Vous, les civils, vous ne respectez rien.
Oh, ça va, ne joue pas les martyrs. Le 1er mai, ses potes sont venus vous soutenir, vous les jours cato, quand les libéraux ont voulu fusiller le lundi de Pentecôte. Heureusement que le 14 juillet et le 11 novembre ont réussi à se placer un jeudi et un vendredi.
Quand je pense que 2016 est bissextile, et que le 29 février est un lundi.
C'est peut-être une bonne chose pour motiver les luttes sociales.
Oh non, pas de violence.
Oh, toi, si tu veux pas qu'on en vienne à la violence, tu vas travailler au corps, le patronat et les décideurs de tout poil. Qu'ils soient gentils, hein, avec les petits travailleurs. Qu'ils soient généreux avec eux. Et un petit peu moins avec les actionnaires.
Oui, parce que sinon il y aura encore des armistices, parce qu'après il y aura encore des guerres, et moi j'aime pas trop quand il y a des jours de commémoration. Les gens finissent par m'oublier.
Ah, la voilà votre vraie nature. Égoïste.
Moi, égoïste.
Oh,
Pas de violence.
Maintenant, nous voudrions, concernant la fiction radio, notre Inkipsis, vous renouveler notre invitation. À savoir, si vous faites partie d'un club de théâtre et que vous êtes intéressé par l'aventure du théâtre de radio, nous vous proposons, dans le cadre de votre atelier, que vous composiez, écriviez un scénario. Nous, ensuite, nous venons avec notre petit studio portable. Nous établissons ensemble le plan d'attaque, comment nous allons enregistrer, l'ambiance, les ambiances que vous souhaitez entendre dans cette fiction. Puis, nous faisons le montage. Et quand tout est bien en place, eh bien, nous le diffusons dans le cadre de l'Inkipsis de Mustéarcidio. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez soit nous écrire à mustéarcidio@laposte.net. Je rappelle l'écriture de Mustéarcidio, M-U-S-T-H-E-A-R-C-I-D-I-O. Et ou bien vous pouvez également nous appeler au 09 77 72 09 25.
Et vous êtes toujours sur Mustéarcidio sur Couleur FM 97.1. Allez, on enchaîne avec une nouvelle rubrique aussi qui s'appelle « Au coin du feu ».
On va se lancer dans la musique avec Jocelyne. On va faire une chanson, ça va s'appeler « J'ai le charlatan qui bourdonne ». Allez, 1, 2, 3, 4. J'ai le charlatan qui bourdonne.
Roger.
Ah oui, je crois que j'entends Jocelyne. Jocelyne?
C'est moi, Jocelyne.
Ah, Jocelyne, ça te dirait de faire un jeu?
Ah oui, Roger, avec plaisir.
Oh, donc qu'est-ce qu'on a comme jeu?
Alors, les plus anciens, et les plus célèbres sont les Jeux Olympiques, dont les premiers ont lieu au 8e siècle avant Jésus-Christ.
Et c'est parti.
Ils perdurent pendant près de 1000 ans, comme nous, Roger. En fait, il s'agit de fêtes religieuses en l'honneur d'un dieu. Alors, c'est tout à fait passionnant.
En effet.
L'esprit de compétition qui anime les athlètes se retrouve dans tous les jeux aujourd'hui, quasiment. On peut penser que c'est une énième manière pour les hommes d'entrer en conflit. Bon, réglé et modéré cette fois-ci.
Mais c'est moi qui ai gagné!
Mais c'est pas vrai! C'est
mais
moi!
Elle me mord les meules!
Les jeux de cartes, qui sont les plus populaires, ont été inventés au Moyen-Âge. Avec un jeu de cartes, on peut jouer à la belote, au pouilleux, comme toi, Roger.
On va chercher faim.
Au nain jaune, au brelan, au bridge.
Oh, le bridge.
Au tarot, au poker, à la bataille, au chanteloubi.
Donc, quel.
Et puis, il y a les jeux d'extérieur, comme le croquet, le lancer de mode de terre, le jeu du caillou.
Alors, à quoi?
Il y a aussi les jeux de société qui peuvent être basés sur des cartes, comme le mille bornes, Elixir.
Et on joue.
Il y a les jeux interactifs, comme le loup-garou de tierce lieu, qui peut aussi s'appuyer sur des cartes. Et qui peut... On peut aussi utiliser une extension lorsque tous les joueurs maîtrisent parfaitement les règles et qu'ils s'ennuient, qu'ils souhaitent un peu rehausser le challenge en y ajoutant de nouveaux PNJ ou de nouveaux règles.
Alors, à quoi...
Mais qu'est-ce que c'est qu'un PNJ? C'est un personnage non-joueur qui ne joue pas. Et où le rencontre-t-on? Dans les jeux de rôle. Mais qu'est-ce qu'un jeu de rôle? C'est un jeu où les joueurs incarnent des personnages dont les compétences sont définies grâce à une fiche de personnage. Ils interagissent entre eux grâce au maître du jeu et à des jets de dés. Ils vivent une aventure dans un monde fictif et ils ont des objectifs qu'ils doivent remplir.
Alors, à quoi est-ce qu'on...
Le premier et le plus célèbre des jeux de rôle est Donjons et Dragons. On peut y associer les jeux de rôle grandeur nature, comme toi, Roger, qui, au lieu de se dérouler autour d'une table, se déroule dans un château, une forêt, un hameau abandonné.
Bon, et on a aussi des jeux de plateau. Là, dans ce placard, on a le Monopoly.
Ben oui.
Le Cluedo.
Oui.
Le Scrabble.
Ben oui.
Trivial Pursuit.
Exactement.
Les échecs.
Ben oui.
Le jeu de loi.
Ben oui.
Et les petits chevaux.
Oui, oui, oui.
Allez, c'est parti.
Wouhou.
Youhou. C'est parti.
Envoyé spatial, une rubrique de notre reporter déconnecté de l'actualité.
Bonjour, bonsoir à la Terre. Je suis actuellement en mission spéciale spatiale. Je suis posté et je suis sur le qui-vive. J'attends qu'il se passe quelque chose, comme toutes et tous les reporters. Mais je n'ai pas de chance. Aujourd'hui, comme hier et avant-hier, les jours se ressemblent. Il ne se passe rien d'intéressant pour le grand public. Pas de rentrée scolaire, de front hivernal ou encore de manifestation républicaine à Corée.
Cet envoyé spatial du mois de janvier 2016 est dédié aux jeux coopératifs. Pour cela, nous sommes allés voir des énergumènes, 4 pour être exact, Étienne, Boris, Raphaël et Pierre. Ce sont tous des joueurs de jeux de société et de jeux coopératifs depuis leur tendre enfance. Alors, il faut savoir que nous sommes allés les voir pendant un goûter crêpe. Voilà, ce qui explique pas mal de choses dans l'enregistrement. Bonne écoute.
Donc je disais, la différence entre un bon et un mauvais joueur, c'est que le bon joueur, il voit des dés, bon, il les lance. Alors que le mauvais joueur, il voit des dés, bon, il les lance, mais c'est un mauvais joueur, tu vois.
Non, donc, voilà. Merci pour la référence, Bob.
Bon alors du coup, petite question à ces joueurs de jeux coopératifs. Qu'est-ce qu'un jeu coopératif ?
C'est-à-dire que nous on fait plutôt des jeux qui ne sont pas coopératifs.
On vient de finir une après-midi de jeux coopératifs.
C'est une blague, bande de cons.
Ouais, mais t'es pas drôle, donc pas de
bien. Bon bah allez-y.
Un jeu coopératif, c'est un jeu où on joue à plusieurs.
Bonne réponse, Pierre. Bravo.
Je vais refaire. C'est un jeu où on joue en coopération.
Voilà. Ça, c'est validé hein, comme réponse. C'est validé. Ça, c'est vrai.
Ça, c'est le sens commun, on va dire. Ouais. Le sens commun. Voilà. C'est que c'est un jeu.
En fait, on joue ensemble.
Voilà.
Ouais. Très bien.
On joue les uns contre les autres.
Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition. Enfin, ouais, pas vraiment.
Pas dans le jeu. Pas dans le jeu. Voilà.
C'est-à-dire qu'on a tous des choses sur lesquelles on n'est pas vraiment d'accord, mais ça ne concerne pas forcément le jeu. Pas forcément le lieu pour en parler.
Là-dessus, on est plutôt d'accord.
Voilà. On est plutôt d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord sur tout. Ce qui fait que voilà, on fait plutôt des jeux où on peut ne pas être d'accord.
mais on coopère quand même. Voilà. Ouais. On n'est pas d'accord, mais on coopère.
La dernière fois, on tombait sur la décision pour acheter un nouveau jeu, on n'est toujours pas d'accord.
C'est vrai. Par contre, c'est difficile d'être d'accord sur le bon jeu coopératif. C'est difficile de coopérer dans l'achat d'un jeu coopératif.
Je suis pas d'accord avec toi, mais oui.
Non, le bon jeu coopératif, c'est le plus cher. Voilà. Nous, on se réfère à ça, on prend toujours le plus cher.
Vague, on dit vague. Allez, on revient sur la question de base. Qu'est-ce qu'un jeu coopératif ?
Un jeu coopératif, c'est un jeu dont l'objectif n'est pas de faire perdre d'autres joueurs. Déjà.
Ça dépend.
S'il est vraiment coopératif, ouais, sinon il est semi-coopératif.
Oh là là,
première distinction.
Si on est dans un vocabulaire vraiment technique, une certaine terminologie, bon, on va faire un effort.
Ah, mais c'est vrai qu'après, discuter de la ludicité, je veux dire. Parce que c'est dépasser finalement un principe agonistique, une concurrence, voilà, l'objectif étant de détruire finalement l'autre joueur, comme le Monopoly, par exemple, qui n'est pas un jeu coopératif, qui est un jeu
de merde,
un jeu de merde, diffusant des valeurs capitalistes, autant le dire tout de suite, hein, clairement, dont l'objectif c'est d'être le plus riche et de faire tomber les autres dans la précarité et la pauvreté. Finalement, de les écraser par sa richesse. Ça, c'est... Le Monopoly, c'est le jeu non coopératif par excellence. Et souvent, les jeux non coopératifs sont très connus, très en vogue. Les gens y jouent parce qu'on a l'habitude de jouer à des jeux non coopératifs. C'est les plus connus. Et puis après, bah, y a les jeux coopératifs où, par exemple, chaque joueur, en fait, fait partie de la même équipe avec l'ensemble des autres joueurs et va lutter, par exemple, contre... le plateau, qui a sa logique propre, qui va essayer de faire perdre tous les joueurs ensemble. Et les joueurs peuvent gagner tous ensemble contre le jeu. Après, ça dépend des univers et des règles du jeu. Il peut y avoir ça dans tous les univers différents.
Et souvent, on ne peut pas gagner tout seul.
Voilà. C'est un peu la même chose qu'une partie en coop sur un jeu vidéo, sauf qu'au lieu d'avoir un logiciel qui crée le jeu vidéo, on a un livre de règles qu'il faut lire, et au lieu d'avoir des codes qui vont d'une étape à l'autre, c'est des cartes à lire.
Ok, on commence à y voir plus clair sur la définition du mot jeu coopératif ou semi-coopératif. Une petite précision, Christophe ?
Que les jeux peuvent être semi-coopératifs. C'est-à-dire que, et c'est souvent le cas, Chevalier de la Table Ronde, par exemple, auquel on joue pas, en fait. C'est en gros un jeu coopératif où tout le monde joue contre le plateau, mais pour casser un peu le truc, en gros, il y a un joueur qui est filon. Ou deux d'ailleurs, des joueurs qui jouent secrètement, qui œuvrent secrètement contre les autres joueurs. Mais ça en général.
Après, c'est pas forcément contre, ça peut être un objectif personnel comme oui, voilà. Le zombie qui a.
Oui. Ça, en gros, ils peuvent avoir leur objectif propre, leur logique propre. Qui les oppose pas forcément à tous les autres joueurs, mais souvent.
Et l'ami Mathieu a quelque chose à dire, non ?
J'aimerais juste rajouter une autre définition de jeu coopératif.
On peut également voir ça comme un jeu où si tu perds, c'est pas ta faute, mais celle des autres.
Ça, c'est vrai. Et c'est la définition qu'a choisi Boris. Quand il perd, en général, c'est qu'on a très mal joué. Et quand on gagne, c'est qu'il a très très bien joué. Il y en a toujours un comme ça. Donc après, c'est cette personne finit par jouer toute seule au jeu coopératif dans un coin de son grenier. Mais ce qui rend des lettres à son ami imaginaire.
Ce qui rend le jeu beaucoup plus efficace, par contre, quand tu es tout seul, quand même. C'est facile d'être d'accord avec soi-même.
Ouais.
Pas toujours, mais.
N'empêche que nous, on ne joue qu'à des jeux coopératifs aussi, parce qu'on se fout sur la gueule. On a fait une expérience Game of Thrones dans une obscure grange à Saint-Raud. C'était une horreur, on a failli se battre. Non, mais vraiment, on a arrêté de jouer au bout d'une heure et demie. On s'est dit, bon, les gars, on va peut-être jouer à autre chose.
Non, on a quand même allé jusqu'au bout de la partie.
Donc, c'est vrai que. On a failli se battre plus que l'autre, quand même.
Elle est moins peureux, quoi. Mais du coup. Non, mais c'est vrai que c'est quand même plus intéressant. Quand on est un gros joueur, et les mécaniques sont souvent plus intéressantes, sur du jeu coopératif, ça se limite pas, en gros, gruger l'autre, je sais pas.
Je sais pas si c'est plus intéressant, mais c'est pas le même état d'esprit.
Oui, c'est
après, parce que intéressant, ça dépend, enfin, y a quand même des mécaniques dans des jeux classiques qui sont super intéressantes aussi, mais c'est vrai que là, ça a l'avantage, bah, exactement l'exemple de Game of Thrones, c'est quand même cool, c'est qu'on se met pas sur la gueule à la fin de la partie, et c'est pas...
Game of Thrones, on se met pas sur la gueule à la fin de la partie.
Non, justement, contrairement à Game of Thrones, on se met pas sur la gueule à la fin de la partie sur un jeu coopératif. Ou bien alors juste un peu, mais dans ces cas-là, c'est encore coopératif parce qu'on veut tous taper sur le fielon. Donc du coup, quelque part,
tu vois. Non, mais le problème des jeux qui sont pas coopératifs, c'est que déjà t'es un peu plus dans ton coin. Et en gros, les seuls moments où t'interagis, c'est pour se foutre sur la gueule, quoi. Ah bah au fait, bah moi je t'attaque.
C'est ça.
Tu vois. Ou Étienne qui dit, bah au fait, j'ai gagné. Tu vois, t'avais pas vu. Parce qu'après, il faut savoir qu'il y a plusieurs genres de joueurs. C'est peut-être la question suivante, mais.
Allez, c'est parti. Les genres de joueurs, c'est parti.
Non, non, mais après, on dit souvent, il y a les bons joueurs, il y a les mauvais joueurs, mais ça se limite pas qu'à ça. Parce qu'il y a des nuances, il y a des degrés dans le bon joueur et dans le mauvais joueur. Il y a des gens contre qui vous ne pouvez pas gagner. Ou en tout cas, pas complètement. Donc ça, voilà.
Moi, je suis ce genre de joueur, mais je suis aussi mauvais joueur.
Oui, voilà.
C'est-à-dire que notamment sur des jeux comme Game of Thrones, justement, où il faut vraiment se mettre dessus à gros coups d'armée. Forcément, à un moment donné, quand on commence à se faire réduire et que ses plans ne marchent pas comme prévu et qu'on ne défonce pas les armées de son copain comme on avait prévu de le faire, ça met un peu la mort, quoi.
Non, mais le fait que tu dises que t'es mauvais joueur prouve que t'es pas mauvais joueur, justement. Parce qu'un vrai mauvais joueur, il dira jamais qu'il est mauvais joueur.
Ah, ça fait vraiment beaucoup trop longtemps qu'on n'a pas joué à des jeux.
Non, c'est vrai.
Non, il faut peut-être un petit rappel de comment ça se passe. Parce que...
Ah non, mais on est tous un petit peu mauvais joueurs.
Non, pas bon.
Certains plus que d'autres. Voilà, c'est exactement ce que je disais.
Moi, je gagne tout le temps, donc j'ai pas besoin d'être mauvais joueur.
Voilà. Et après, il y a Boris. Parce que Boris, c'est le genre de gars. C'est quoi que tu veux ? Une statue ? S'il a aucune chance de gagner, il va arrêter de jouer pour gagner. Et il va jouer pour faire n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, il le fait souvent. Il va faire des expériences. Donc, il cherche plus à gagner ou à faire perdre les autres. Il cherche à faire des trucs improbables. Ce qui, du coup, nique la partie de tous les mecs qui sont en train de jouer pour gagner. Parce que eux, ils sont dans les mécanismes de jeu normaux. Et il y a un mec à côté qui fait n'importe quoi. Qui prend les cartes.
Non, mais c'est tout le temps.
Alors, après, oui, il y a ceux qui sont pas capables de jouer et qui, du coup, font n'importe quoi tout le temps parce qu'ils comprennent pas les règles. Mais ça, c'est hors catégorie, quoi. Normalement, il y a un âge sur les boîtes d'ailleurs. Il va pas jouer avec nous. Ouais, voilà. Okay.
Est-ce que vous avez d'autres exemples de différents types de joueurs?
Non, mais... Il y a ceux qui accusent toujours les dés et qui disent qu'ils ont jamais de chance, par exemple Christophe. Christophe, il a jamais de chance, ça fait 15 ans, tu sais pas pourquoi, il a un mauvais magnétisme avec les dés. Voilà. Du coup, quand il perd, c'est à cause des dés.
Ouais. Mais d'un autre côté, t'as des joueurs qui ont toujours de la chance.
Ouais.
C'est vrai,
comme Pierre. Ah, bah après, c'est un fait.
Et qui font n'importe quoi.
Tu gagnes en faisant n'importe quoi.
Mais c'est un. Jouons n'importe quoi.
Ah, tu fais référence à mon quintuple 1 sur la sauvegarde de mes Terminator dans Land Rider. On avait 12 ans et je suis désolé, c'était un coup du sort. Non, en vrai, il y a les gros joueurs et les petits joueurs. Et nous, on est des gros joueurs, c'est pour ça qu'on fait des jeux coopératifs. Parce qu'on a joué à tout et c'est quand même les jeux les plus intéressants.
Non, en fait, t'as les gros joueurs et t'as rien d'autre à côté. Personne se dit petit joueur, quoi.
Oui, c'est vrai. T'as ceux qui se pensent gros joueurs mais qui en fait sont des guignols. Et puis, il y a les gros joueurs qui le savent.
Non, mais et c'est vrai. Qui se définissent pas en tant que joueurs, qui font une partie de jeu de société comme si.
Voilà. Il y a des gens qui se rêvent grands joueurs. Tu rencontres des gens qui disent « Ouais, moi, je joue grave aux jeux de société, qu'est-ce que tu fais ?»« Ouais, je fais des gros Monopoly dans ma cave, tout ça, une fois tous les 36 du mois. » Non, tu n'existes pas. Non, non, mais voilà. Insère-toi, trouve un stage, fais quelque chose. Tu sais ce que je veux dire. Mais laisse les joueurs jouer, quoi. Non, non, mais c'est vrai. Pas non plus...
Nous, on ne dit pas qu'on est des musiciens hors pair, par exemple.
Alors que Raph chante très bien.
Alors que. Il faut attendre de chercher sa connerie.
Ouais, c'est vrai qu'on cherche ton point de vue.
Si vous faites une émission sur la musique,
pas de on peut la faire dans la foulée.
C'est parti aussi, ouais.
Ce sera peut-être même meilleur que celle-ci.
On pourra enchaîner avec ça. Alors, des exemples de jeux, j'allais dire.
Ah, on cite pas les marques par contre, hein. On fait pas de pub.
Non, mais. Les jeux qui vous ont marqué ou bien les jeux auxquels vous jouez le plus souvent.
Le premier, celui où on vient d'en faire une partie là, cet après-midi, c'est Cthulhu, c'est sûr, Horreur Arkham. Alors, ça c'est un gros jeu où en gros, c'est dans un univers qui est dans. Enfin, début du 20e. À peu près, c'est ça. Hein.
Donne les dates, parce que tout le monde comprend pas.
C'est Lovecraft, si jamais ça intéresse des gens. C'est un univers qui est tiré d'un. Enfin, qui a été développé par un auteur de littérature américaine qui s'appelle Lovecraft. Et qui a. Et, donc, c'est un auteur de fantastique.
Type de joueur qui impose sa science.
C'est où ça qui est intéressant.
Oui, bien sûr, c'est vrai.
Et.
Non, mais c'est un autre type de joueur. Ah, tu vois qui explique tout à tout le monde, c'est toi.
Mais c'est juste
pour compléter ce qu'on avait dit avant.
Oui, mais il faut bien qu'il y ait un relou aussi dans partout.
Oui, voilà.
Mais voilà, et du coup, donc il a inventé un mythe de la création avec des dieux, etc. Donc Cthulhu qui serait endormi quelque part sous l'océan
et à attendre son
réveil et qui contrôle les humains, qui leur envoie des messages par les rêves, dans les rêves, etc. Et ça a été repris par d'autres auteurs et ça a dérivé en jeu de rôle et en jeu de société. Et on est passé par le jeu de rôle avant de passer par le jeu de société d'ailleurs.
Et donc en fait le principe de ce jeu, c'est qu'il y a un des grands anciens, donc des grandes créatures que les humains ne comprennent pas trop et qui sont terrifiantes et qui veulent contrôler l'humanité et détruire le monde, qui est en train d'essayer de se réveiller. Et pour se réveiller en fait, ils essayent d'ouvrir des portails et de déverser des créatures dans les rues d'une ville qui s'appelle Arkham. Et en fait ce jeu c'est très simple.
Non.
C'est il y a le plan de la ville d'Arkham et il y a des portails qui s'ouvrent avec des monstres qui sortent et en fait chaque joueur humain contrôle un investigateur, donc un personnage dans le jeu, et il y en a plein au choix. C'est des gens normaux, donc il y a par exemple, je sais pas moi, un représentant de commerce, un professeur d'astrophysique, un jeune policier, un vagabond, c'est parce que c'est, il jouait le vagabond là cette partie. D'ailleurs, il a été dévoré. Et il y a plein de personnages comme ça qui prennent conscience en fait du problème et qui agissent collectivement pour essayer de faire en sorte que le grand ancien ne se réveille pas. Donc, ça c'est la base coopérative du jeu, c'est ça. C'est que chaque joueur a un personnage. Et les personnages sont tous ensemble en équipe contre le grand ancien qui va se réveiller et qui est incarné par le principe du jeu. Le jeu joue lui-même parce que tous les tours, les joueurs tirent des cartes qui expliquent comment le jeu va jouer lui-même. Donc mettre un portail à tel endroit, faire sortir ces créatures à tel endroit, etc., etc. Et après, en fait, la partie, c'est de faire en sorte de réussir à fermer les portails, tuer les monstres, sans se faire tuer soi-même. Et soit de faire en sorte que le grand ancien ne puisse pas apparaître, soit s'il apparaît, tous les joueurs ensemble essayer de le détruire dans un combat final qui se joue avec des dés, des cartes, etc. Voilà. Donc ça, c'est le principe du jeu coopératif de Cthulhu Arkham. Après, il y en a d'autres. Hein. On joue à quoi d'autre ?
Chevalier de la table ronde. Ça, c'est un jeu semi-coopératif. Où en gros l'objectif est de que le camp du bien l'emporte sur le camp du mal en rassemblant le plus d'épées, de lancelots possible. Et parmi les chevaliers de la table ronde, il y en a un qui peut être un chevalier filon et qui peut, en gros, qui mène des actions pour empêcher les chevaliers du bien de l'emporter. Sinon, on joue à quoi aussi en jeu coopératif ?
Il y a Romain aussi, mais il est pas, il est semi coopératif. Ouais, ça c'est un jeu dans l'univers de la République romaine en gros, enfin du Sénat romain où chacun incarne un groupe de sénateurs. Et il y a d'un côté, il faut gérer les problèmes de Rome. Donc il y a toute une partie, justement, lutte contre le plateau en coopératif. Et en même temps, on a chacun nos intérêts particuliers. Et il y a quand même un gagnant à la fin. En gros, tout le monde perd si Rome perd. Et il y en a un qui peut gagner.
C'est ça.
Mais on joue vraiment qu'à Toulon, en gros, jeu coopératif. Mmh. À quoi d'autre ?
On a les zombies, là.
Ah oui, notre dernière acquisition.
Dead of Winter,
voilà. Une colonie à défendre contre des zombies.
Avec la potentialité, mais non pas à chaque fois, un peu comme
le chevalier de la table ronde qui est un traître quelque part, qui a lui aussi ses objectifs personnels, et après c'est aller dans une école, dans dans les hôpitaux, etc., et dérouiller des zombies, récupérer de l'équipement, survivre, quoi. Voilà.
Ouais, c'est la base pour un jeu de zombies.
Ouais. C'est ça.
Ils ont plus, par exemple, la différence avec d'autres jeux de zombies, c'est que justement, il est coopératif. Ouais. Et ça fait une grande différence. Parce que un jeu de zombies qui n'est pas coopératif, où l'objectif c'est juste de survivre individuellement, bah, finalement, c'est quand même assez basique, quoi. Et puis justement, pendant le jeu en lui-même, bah, t'as tes zombies autour de toi, t'as ton petit personnage qui trouve son fusil. Et finalement, chaque joueur est rivé les yeux sur la figurine de son personnage et prend pas forcément plaisir en fait à attendre que les 7 autres joueurs ou les 4 autres joueurs ou les 3 autres joueurs finissent leur tour, qu'ils survivent ou qu'ils meurent, parce que leur seul intérêt c'est de survivre. Là en fait, comme la survie justement de la colonie de survivants, elle est complètement liée aux actions que chaque joueur vont faire ensemble et comment ces actions se combinent ensemble. Bah, t'es obligé de parler avec les autres joueurs, etc. Et en fait, c'est comme si tu jouais un peu quand les autres jouent aussi. Parce que c'est coopératif. Donc tu regardes ce qu'ils font, comment ils vont, quelles opportunités ça leur offre à eux, quelles opportunités ça t'offre à toi. Et puis tu parles, tu te mets d'accord, et t'es obligé de te mettre d'accord.
Oui, on passe toujours par.
Parce que si tu te mets pas d'accord, justement, ça crée une force d'équipe trop faible contre le jeu, en fait. Et donc du coup, tu peux pas avancer. Et tu perds.
Mais du coup, c'est peut-être aussi ça qui est... C'est que les jeux en coopération sont quand même un petit peu plus longs en règle générale que les jeux qui auraient après l'équivalence en coopération, parce qu'on est obligé justement de discuter pour se mettre d'accord un peu.
Après, il y a certains jeux que tu peux rendre coopératifs, ou plus ou moins coopératifs. C'est le cas d'Agricola, par exemple. Donc ça, c'est un jeu où chaque joueur incarne un paysan avec sa ferme, dans l'Europe médiévale, en gros. Et tu dois développer justement ton petit domaine pour nourrir ta famille, faire grandir ta famille, avoir du bétail, des champs, les cultiver, et puis justement te protéger de la famille et de la famine et de tout un tas d'autres problèmes comme ça. Et en fait, tu peux jouer à ce jeu d'une manière non coopérative, c'est-à-dire que tu peux jouer à 4, mais il y a des ressources limitées. Donc si quelqu'un prend toutes les ressources, par exemple, et ça va mettre d'autres paysans dans des situations difficiles. Donc tu peux jouer non coopératif à ce jeu, mais tu peux aussi justement décider d'y jouer d'une manière un peu plus coopérative, où tu vas essayer de pouvoir trouver des techniques pour partager les ressources, et pour discuter, et puis pour faire en sorte que finalement, à la fin, même si tu as un gagnant, et tout le monde aura été protégé de la famille, de la famine, et puis tu peux avancer vers des objectifs, on va dire, où tu creuses plus profondément le jeu. Parce que comme, comme tu sais que tu n'auras pas les coups d'épée dans le dos des autres joueurs, chacun va pouvoir essayer de développer à fond son domaine. Et l'objectif, ce ne sera pas de faire perdre les autres parce que tu les as mis dans la famine, par exemple. Mais ça va être plus de gagner parce que tu auras fait beaucoup de points, parce que tu auras développé à fond ton domaine. Voilà, donc après, c'est encore d'autres manières de voir le jeu de société, quoi. C'est même un jeu qui est pas coopératif à la base, tu peux le rendre un peu plus coopératif.
C'est un des rares jeux où tu peux jouer seul.
Ouais. Il y en a de plus en plus. C'est un des rares jeux, oui, mais ils sont de moins en moins rares parce que c'est de plus en plus prévu.
Ouais, dans l'absolu, Arkham, tu peux jouer tout seul. Hein. Il faut avoir envie, mais tu peux jouer tout seul.
Et c'est forcément dans les jeux prévus pour être coopératif que tu peux jouer seul, ça veut dire que tu joues contre le plateau, quoi.
C'est ça.
Et que t'incarnes plusieurs joueurs, quoi.
Bah, Agricola, pas forcément. Agricola, c'est peut-être un des seuls jeux où tu peux jouer contre le plateau tout seul. C'est-à-dire en incarnant autant de personnages que si tu jouais avec d'autres gens, c'est-à-dire un seul. Là, au Arkham, si de toute façon tu vas pouvoir jouer tout seul, je pense.
Vous allez dire, mais ça va être super chiant.
Mais non, tu peux même jouer en.
Les règles sont pas prévues pour un seul
personnage. Ouais, peut-être à partir de deux, mais en tout cas, tu peux jouer en incarnant du coup plusieurs personnages, mais. Mais il y a de plus en plus des jeux où tu peux jouer seul.
Merci, le mot de la fin.
Copain, c'est celui avec qui tu manges le pain. Non, on est co-crêpe en fait. Comment ça, on est passé de copain à co-crêpe. Bon, ce sera le mot de la fin. Co-crêpe.
Co-crêpe.
Soyez co-crêpe.
d'écouter Orange Bud, les Chambériens et Chambériennes, avec leur titre Judge Soul. Et maintenant, le C'est quand qui est quoi ?
C'est quand qui est quoi ? Rubrique sur les événements culturels du mois prochain, qui se passent dans le coin ou pas du tout d'ailleurs, peu importe. Les tuyaux cinématographiques, musicaux, théâtraux, événementaux, éléphantaux, etc.
Festival international du court-métrage du 5 au 13 février 2016 à Clermont-Ferrand. La plus importante manifestation consacrée aux films courts. Carnaval de Nice du 12 au 28 février 2016 à Nice, le premier carnaval de France. Fête du citron du 13 février au 2 mars 2016 à Menton. Un événement unique nécessitant 145 tonnes d'agrumes. Festival international des Jeux du 26 au 28 février 2016 à Cannes, la plus grande manifestation ludique francophone. Fête des Violettes du 27 au 28 février 2016 à Tournette-sur-Loup. Fête traditionnelle et corso fleuri consacrée à la violette. Salon de l'agriculture du 27 février au 6 mars 2016 à Paris. Une véritable fenêtre ouverte sur l'agriculture dans toute sa diversité. Grand Corso du Mimosa le 28 février 2016 à Bornes-les-Mimosas. Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver du 16 au 21 février 2016 à Lillemar en Norvège. Art et astronomie le 4 février 2016 à Paris, musée des arts et métiers. Match de rugby France-Italie le samedi 6 février 2016 à 15h25. Match de rugby France-Irlande le samedi 13 février 2016 à 15h25. Concert de la chanteuse Adèle le 29 février 2016 à Belfast. Match de rugby Pays de Galles-France le vendredi 26 février. Gastronomie du jeudi 11 au dimanche 14 février au Grand Palais à Paris. Carnaval le monde fantastique aquatique le 7 février 2016 à Paris. Défilé du Nouvel An chinois, année du singe, le 14 février 2016 à Paris. Coupe du monde de ski alpin, homme, le 20 février 2016 à Chamonix, Mont-Blanc. Concert métal, cataclysme, aborted, petit clèche, le dimanche 14 février 2016 à Paris, le Moulin Rouge. Concert variété française, chanson Forever Gentleman, le 14 février 2016, au Zénith de Paris.
Merci Chloé pour le C'est quand qu'il y a quoi. Et puis avant de s'écouter le morceau Thème piétiné des Barrio Populo, eh ben, j'ai envie de vous dire une petite info, mais je sais pas, peut-être, non. Peut-être qu'un événement se prépare autour de la radio. Bon, gardez les oreilles ouvertes et les yeux sur le qui-vive. Oui, ça peut servir quand même les yeux aussi. Allez, ciao!
Il y en a eu des chansons d'amour, pas n'importe lesquelles. Il y en a eu des troubadours pour chanter des je t'aime. Mais si l'amour peut sauver le monde, alors qu'attendons-nous pour le chanter à chaque seconde et le faire entre nous? Caresserons-nous encore nos aimés quand nos égos dressés auront pris le dessus sur nos femmes? Caresserons-nous encore la liberté quand nos peurs réchauffées auront bien brûlé la folie de nos âmes? On a entendu résonner des cris de liberté, on en a vu se déchirer pour sauver cette beauté. Mais si libre veut dire heureux, alors qu'attendons-nous pour ne plus s'asservir au jeu des hommes à genoux? Caresserons-nous encore nos aînés quand nos égos dressés auront pris le dessus sur nos femmes? Caresserons-nous encore la liberté quand nos peurs réchauffées auront bien brûlé la folie de nos âmes?
vous nous le permettez. Comme un tremplin vers le frisson, vous nous faites voler. Caresserons-nous encore nos aimés quand nos échos dressés auront pris le dessus sur nos femmes. Caresserons-nous encore la liberté quand nos pères réchauffés auront bien brûlé la folie de nos âmes. De nos haines enfermantes, ne nous soumettons pas. De la passion bruyante, ne marchons pas au pas. Si je chante pour vous simplement, je vous prie de m'excuser. Mais c'est que je vous sais malheureusement, sans cesse en danger. Alors osons encore et toujours aimer la liberté. Osons encore et toujours libérer nos baisers. Et qu'un seul homme vienne me voir pour de moi se moquer, je serai libre de lui sourire et même de l'aimer. Caresserons-nous encore nos aimés quand nos échos dressés auront pris le dessus sur nos femmes. Caresserons-nous encore la liberté quand nos pères réchauffés auront bien brûlé la folie de nos âmes.
Bien sûr, Mustère Sidio, que vous écoutez sur Couleur FM 97.1.
Mustère Sidio sur Couleur FM 97.1. Pourquoi ce titre ? Mustère Sidio, nom unique et évocateur, possède une signification. Muse,
musique.
Thé,
théâtre.
Art,
art plastique, art chorégraphique.
Si,
cinéma.
Dio,
radio.
Nous, chroniqueurs de talent, réunirons donc ces domaines artistiques qui nous tiennent à cœur dans une émission fantaisiste basée sur des faits réels.